Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
J'ai une question pour vous deux.
Benoît Dutrisac.
Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario?
Mario Dumont.
Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire.
Ben, c'est cave.
C'est des crapules.
C'est cave, dire ça.
Ils ont tellement tout.
Non, ils ont déjà eu plus.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Fais un petit effort.
Retour sur le Conseil national du Parti québécois. Ça se passait à Drummondville en fin de semaine. Oui, on a parlé de crise du logement. On a parlé d'immigration. Mais on a parlé beaucoup de souveraineté. Et il y a des déclarations du chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui font réagir. Benoît, Mario, bonjour à vous deux.
Hello.
Bonjour.
Mario, selon Paul Saint-Pierre Plamondon, l'histoire s'accélère et il y aura bel et bien un référendum là, d'ici la fin de la prochaine décennie.
Oui. Écoute, il y a du bon puis il y a du « je suis moins sûr » dans sa fin de semaine. Écoute, d'abord, il fait une description du Canada. Bon, peut-être un peu sombre, même moi qui est très, très critique du Canada. Bon, lui, il approche la fin du monde. Mais c'est vrai, le Canada est dysfonctionnel. La centralisation, on la sent. Et surtout, le Canada, si on le place sur le plan linguistique ou culturel, se définit sans le Québec. T'sais, on n'entend plus l'hymne national en français. En fait, le français devient une langue comme le punjabi, l'arabe, le chinois. Le Canada est un pays multilingue dont la langue commune, c'est l'anglais. Puis le français fait partie de ses nombreuses autres langues. Donc, une journée par mois, le gouvernement fédéral essaie de nous rappeler qu'il y a deux langues officielles. On le sent plus dans le vécu du pays. Donc, puis là, je ne parle pas des seuils d'immigration complètement hors normes. Le Québec qui perd son poids dans le Canada. Il y a quelque chose de réel dans le Canada. Il y a quelque chose de bon aussi à voir Paul Saint-Pierre Plamondon affirmatif. Il faut que tu y crois à ton option. Avec ça, il y a un goût là, que j'achète. Un leader politique doit y croire. Maintenant, de parler de lui au pouvoir à la prochaine élection comme d'une certitude absolue, là, parce que là, pour qu'il y ait un référendum, dire, regarde, ça va arriver, c'est sûr, ça me paraît plus risqué. Là. Puis, même s'il croit vraiment, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est bon de le dire, je ne sais pas jusqu'à quel point ça fait... pas un peu trop confiant, deux ans, quelque chose, à deux ans et demi avant les prochaines élections, de dire, c'est une évidence là, qu'on va gagner. Moi,
au contraire. Mais au contraire, tu sais, dans son discours, là, il dit, il faut qu'on se voit comme des Maurice Richard, faut qu'on se voit comme des bombardiers, comme des gens qui sont capables d'arriver à leur fin. Et je pense que c'est le discours qu'il faut avoir pour donner confiance aux Québécois puis dire, cette option-là, elle est réelle, elle est viable, puis on va arrêter d'avoir peur, comme il disait lui-même, Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, j'ai été... Quand il cite Brian Mulroney, puis il dit, la réconciliation dans l'honneur et l'enthousiasme, là, oubliez ça, c'est fini, le fédéralisme. Moi, j'aime comment il parle aux gens. Il les prend pas de haut. Il leur dit, ensemble, là, on peut le faire, on peut y arriver, au point tel où là, Marc Tanguay, vous avez entendu, il ressort la cassette quétaine, usée des fédéralistes. Il fait peur. Il utilise la peur. Ben non, Marc, il utilise pas la peur. Il utilise l'espoir. Puis, je l'ai écouté son discours, puis je me suis dit, enfin, là, on a un discours d'affirmation sans dénigrer les autres, sans rabaisser les autres. Et puis, il est temps, là, que les prochaines étapes, on puisse, je pense, définir un peu plus ce serait quoi le Québec d'ici 2030, si jamais on devient indépendant. Ça serait quoi un gouvernement de Paul Saint-Pierre Plamondon? Est-ce qu'il serait à droite? Est-ce qu'il serait à gauche? Ça ressemble à quoi? Là, tu sais, la campagne de convaincre les gens, là, je pense, c'est correct, mais là, il va falloir parler de choses réelles. Il parle de mettre un moratoire sur l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va y arriver? Il veut construire des logements. Moi, je vous le dis, là, j'y croyais pas, tu sais, puis il y a pas si longtemps, on se demandait, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est-tu Pierre Saint-Paul Plamondon? Comment il se nomme? C'est qui ce gars-là? D'où il sort? Qu'est-ce qu'il veut faire? Puis aujourd'hui, je pense qu'il fait sa marque.
Ah, aucun doute, là, Benoît. C'est juste quand il parle d'une certitude qu'il va y avoir un référendum, c'est sous-entendu qu'il va y avoir une certitude qu'il va gagner les prochaines élections. un, c'est pas fait. Deux, je suis pas certain qu'il augmente ses chances que ça arrive.
C'est clair.
Et trois, ouais, mais il faut ajouter quand même une affaire, là. Est-ce que les Québécois vont revouloir un référendum? Juste rappeler que moi, ce que j'ai vécu, mettons, pendant les années Charest, c'est que non seulement les gens voulaient pas de référendum, tu sais, le PQ perdait ses élections à cause de ça. Et même moi, je perdais mes élections à cause de ça. Quand Jean Charest allait sur la scène, il disait, si vous votez pas pour moi, il va y avoir un référendum. Les gens disaient, OK, on s'en fout. La santé, l'éducation, l'économie, tout va mal. La corruption, ouais. Tout, on s'en sac.
Mais je...
on veut pas de référendum. Fait qu'on va voter. Jean Charest, là, quand il manquait 3-4 points là, pour gagner une élection une semaine du vote, il se mettait à taper sur le coup, on veut pas de référendum, là. Puis ses sondages montaient 1, 2, 3, 4, 6 points. Non,
Mais nous, non, mais notre job aussi,
comment c'est... Comment maintenant on présume que ça se produira pas, que Paul Saint-Pierre-Plamondon a promis un référendum? Lui, c'est pas que c'est pas faisable, puis c'est pas qu'il peut pas gagner les prochaines élections. Tu sais qu'il est rendu loin quand il parle en disant « Mais c'est sûr qu'on va gagner, c'est inévitable, il y a rendez-vous avec l'histoire. »
Mais là, Mario, il n'y a pas de Jean Charest, là. Tu sais, le vendeur de chars usagés, là. Tu sais, la bullshit en chef, là. Il est pas là, Jean Charest. Là, il y a rien devant lui. Là, il y a François Legault qui s'est effondré à Ottawa, qui disait qu'il s'en allait là pour négocier puis il revenait la queue entre les jambes. Le contexte est différent. Là, on n'avait pas Montréal comme on a présentement. On n'avait pas cette incertitude à l'avenir du Québec avec Justin qui fait rentrer. Puis tantôt, j'espère, on va parler de Bill Maher sur HBO, là, qui parlait du Canada, qui fait rentrer des gens sans être capable de les loger, puis d'assurer des services, puis d'assurer que le Canada puis le Québec restent ce qu'on est.
Allons-y tout de suite, Benoît, là-dessus, parce que oui, le Canada est cible de moquerie, là.
Mais cible de moquerie, c'est pas la première fois, mais il y a l'émission de Bill Maher qui est diffusée sur HBO. Puis il disait, avant, là, on donnait le Canada en exemple, comme quoi c'était mieux, comme la Scandinavie. Puis on va écouter un extrait parce qu'il donne des chiffres. Puis si on est capable d'utiliser ce qui se dit aux États-Unis à propos du Canada, nous, au Québec, on peut en tirer profit. Écoutez ça.
There's only one problem with thinking everything's better in Canada. It's not. Not anymore, anyway. Last year, Canada added 1.3 million people, which is a lot in one year, the equivalent of the U.S., adding 11 million migrants in one year. And now they're experiencing a housing crisis even worse than ours. And we're sleeping in tents. The median price of a home here is 346 grand. In Canada, converted to U.S. dollars, it's 487. If Barbie moved to Winnipeg, she wouldn't be able to afford her dream house, and Ken would be working at Tim Hortons.
Ça, nous, on doit jouer là-dessus, là. Parce que la perception du Canada, c'était toujours, ah, mon Dieu, c'était quel modèle à suivre pour les gens de gauche aux États-Unis. Bill Maher, il est au centre, tu sais, vraiment, là, il est au centre de la politique. Mais là, il donne des exemples. C'est comme 11 millions de migrants que les États-Unis auraient accueilli si on faisait l'équivalent de 1,3 million au Canada.
Ça passerait mal dans certains États.
Ben, je pense que oui.
Ça passerait mal, excuse-moi Alexandre, ça passerait mal partout sur Terre.
Ben,
oui. Ça passerait, il n'y a pas un pays, ce que fait le Canada présentement, il faut penser que c'est complètement hors norme, c'est complètement pété, là.
Mm. Puis là, c'est rendu que Justin Trudeau est devenu une farce. Je parle pas de Fox News, là, qui est à droite. Je parle des réseaux, là, des animateurs, des comédiens qui sont au centre, pas ben à droite, puis qui regardent Trudeau, puis ils disent ça, là, c'est ce qu'il faut pas faire. C'est l'exemple à ne pas suivre. Regarder la réalité en sortant des chiffres. Puis, tu sais, juste une parenthèse, là, on parle beaucoup de, tu sais, de la Juste pour rire qui est disparue, puis il y a beaucoup d'humoristes au Québec, puis ce genre d'humour-là, là, à part Guy Nantel, on l'entend pas ben, tu sais, au Québec, puis j'aimerais ça en entendre un peu plus. J'aimerais ça entendre moins de blagues de ma blonde qui pète au lit, puis d'avoir une analyse des personnes dans la société qui regardent à droite, à gauche, comme ils veulent, mais au moins avoir un regard sur la société. En tout cas, Bill Maher le fait aux États-Unis, puis juste une affaire, il dit, en politique, là, les libéraux sont comme l'accélérateur, ils sont perçus comme l'accélérateur, puis les conservateurs comme les freins. Puis il dit, en général, moi, je suis en faveur de l'accélérateur, mais pas si on se dirige vers la falaise. Je trouvais que c'était joliment dit.
Mais Mario, on a perdu le contrôle complètement là, quand on regarde le portrait de la situation. Là, puis les conséquences, elles sont réelles.
Mais c'est juste que, tu sais, je reviens à Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui.
C'est le danger. Le Benoît vient de nous dire avec ce qui se passe. Là, il y a François Legault a des défaites à Ottawa, puis Justin Trudeau, ce qu'il fait au gouvernement fédéral. Mais tu sais, peut-être que dans un an, mettons, sur l'immigration, c'est pas impossible que François Legault obtienne une victoire. Puis peut-être que Justin Trudeau sera plus là, ça va être Pierre Poilievre au pouvoir. Fait que là, est-ce que tout le contexte, c'est pas Saint-Pierre Plamondon pour s'avancer? Faut que tu sois sur du solide, faut que tu sois sur une conviction que les Québécois veulent l'indépendance et rien d'autre. Et pas quelque chose quand tu bases sur Justin Trudeau. Mais là, un an après, Justin Trudeau est plus là. Puis là, ton argumentaire tombe à l'eau, là, tu sais.
Ouais, mais l'inverse, donc, c'est pareil. Mario, tu sais, en 80, si on avait tenu le référendum pendant que Joe Clark était au pouvoir, peut-être qu'on serait un pays depuis 44 ans. Tu sais, le contexte, t'as raison, le contexte bouge puis change, mais je pense qu'on est capable d'évoluer aussi, là, puis d'avoir des arguments au fur et à mesure. Mais ça joue dans un sens comme dans l'autre.
Mario, est-ce qu'on doit craindre une escalade de violence dans le Moyen-Orient avec cette réplique de l'Iran qui a attaqué Israël?
Ouais, qui a envoyé des centaines de drones, des missiles de diverses sortes. En fait, ce qu'on saisit, là, c'est qu'il y a seulement 7 missiles qui ont touché la cible. Tous les drones et 95% des missiles là, ont été abattus en vol par les systèmes de défense antiaérien. Ça reste une attaque sans précédent, là, inimaginable au-dessus. Parce que bon, il y avait eu cette attaque d'Israël à l'ambassade, qui est imputée à Israël, à l'ambassade d'Iran en Syrie, à Damas. Bon, l'Iran allait répliquer à ça, mais l'Iran a répliqué d'une façon nettement supérieure à tout ce que les experts attendaient. Alors, est-ce qu'Israël va répliquer à la réplique? En d'autres termes, est-ce qu'une guerre se déclenche? En fin de semaine, on va dire samedi soir, on pouvait se poser la question. Là, il semble que les Américains sont très fermes sur le fait qu'ils veulent que ça en reste là. Que, bon, Israël n'a pas subi beaucoup de dommages, que l'Iran a fait une connerie, puis qu'on va régler ça par la voie diplomatique. Mais politiquement, est-ce que Netanyahou... Parce qu'il faut comprendre là, que si on regarde ça d'un point de vue... D'abord, on regarde ça d'un point de vue mondial, c'est cette région-là du monde qui s'embrase, c'est la dernière affaire qu'on veut voir parce qu'on sait pas où ça va finir. Si on regarde ça d'un point de vue plus égoïste, nous ici, on essaie de combattre l'inflation pour peut-être voir les taux d'intérêt baisser un peu. Si le pétrole repart à la hausse, c'est la plus grosse source d'inflation dans le transport de tous les marchandises, des aliments. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, puis là, ça repart, puis l'inflation remonte, les taux d'intérêt qui baissent, on oublie ça. Fait que c'est assez inquiétant en fin de semaine.
Oui, parce que le danger est réel, là, Benoît.
Ben oui, escalade. Je suis en train de me dire, est-ce que ça peut être pire? T'sais, est-ce qu'on peut avoir... Mais il y a quelque chose de la maladie mentale, là, de la débilité profonde, là, d'avoir un régime tyrannique, misogyne, fasciste, comme le régime iranien, qui a, je vous rappelle, qui a tué de sa population des femmes, la jeune de 22 ans qui a été tuée parce qu'elle portait mal le voile islamique, puis ils l'ont torturée, ils l'ont violée, ils l'ont tuée, le nombre de personnes victimes en Iran, et l'Iran se positionne comme un donneur de leçons.
Le modèle,
non,
mais c'est la République... C'est la République islamique.
Mais tu sais, ils comprennent toujours pas que quand t'es un martyr, quand tu vas au paradis, c'est pas 72 vierges qui t'attendent, c'est une vierge de 72 ans. Allez-vous comprendre ça? Arrêtez de vouloir mourir pour la cause. Ça vaut pas la peine, ça cramouille. Allumez. Mais moi j'en reviens pas, là. Tu sais, là, l'Iran s'en mêle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à Israël. Pas d'escalade, mais est-ce qu'on a encore oublié le Hamas, le 7 octobre, ce qu'ils ont commis comme atrocité? On dirait que là, tout est vers Israël. Puis je comprends là que là, les Palestiniens... Ben, Palestiniens, une partie des Palestiniens applaudit le Hamas, a applaudi le carnage. On peut plus avoir ça, on peut pas avoir ça. Fait que là, le régime, puis cette maladie mentale à laquelle je faisais référence, c'est que je t'attaque, je vous attaque là dans le dos, là je vous frappe, puis là, vous répliquez. Puis là, je suis tout étonné que vous répliquiez. Attends une minute, là. Comment se fait qu'il réplique? Le Hamas, le 7 octobre, il y avait un cessez-le-feu le 6 octobre. 7 octobre, il attaque des civils, il tue, il viole, des carnages, des atrocités. Et Israël réplique? Ben voyons donc. L'Iran envoie 350 missiles sur Israël. 99% n'atteignent pas leur cible. Pourquoi il réplique?
Ben là-dedans, il réplique pas.
Non, non, mais là, on leur dit, il faut pas d'escalade. Mais en même temps, toi, Mario, tu te fais attaquer, à un moment donné, tu vas répliquer.
Ouais, mais là, tu n'as pas de fin. L'Iran considère que ça, c'est sa réplique, parce qu'il y a quelques
autres... C'est ça, la maladie mentale.
...qui ont été attaqués à l'ambassade de Damas, qui ont été... Mais l'Iran, Benoît, comment tu décris l'Iran, mais dans le monde islamique, l'Iran, c'est la référence, c'est le modèle, eux, là. Ils ont vraiment la République islamiste, donc un pays avec les lois religieuses qui sont complètement confondues avec les lois de l'État. Tout ce qu'on veut pas, c'est séparer le religieux de l'État, mais c'est le modèle, là, l'Iran. Donc, c'est la référence, et c'est eux qui mènent le Hezbollah, c'est eux qui mènent le Hamas par en arrière, là, c'est eux qui mènent tout. Là. Au nom du fait qu'ils sont le modèle, qu'ils soient le modèle, là, au nom de cette inspiration qu'ils représentent.
Benoît, Mario, merci à vous deux.
Salut.